Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité africaine en se basant sur plusieurs articles d'Africa Presse du 23 mai. On a un programme assez dense.
Bonjour. Oui, on va parler politique, sécurité et même un peu de technologie, hein. Un vrai tour d'horizon.
Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les enjeux, les dynamiques qui traversent le continent en ce moment. Des tensions politiques en RDC, au Congo-Brazza, les défis au Sahel.
Sans oublier la désinformation qui cible l'Afrique du Sud, et puis le potentiel de l'IA sur le continent, c'est vaste.
Allez, on plonge dedans. On commence par la République démocratique du Congo. Il s'est passé quelque chose de très marquant. L'immunité de Joseph Kabila a été levée par le Sénat. C'est inédit, non ?
Ah oui, tout à fait inédit pour un ancien président congolais. C'est la justice militaire qui a demandé ça. Et les accusations sont, elles sont extrêmement lourdes. On parle de trahison, de complicité présumée avec le M23.
Le M23, c'est rébellion dans l'Est.
Exactement. Et aussi crime de guerre, crime contre l'humanité. Tout ça dans un contexte de violence persistante là-bas, dans l'Est. Donc oui, c'est une première.
Et Kabila, il réagit comment ? Il dénonce une manœuvre politique, j'imagine ?
Oui, il parle de manœuvre politique désespérée. Forcément, les réactions sont très partagées. D'un côté, ceux qui voient un pas vers la justice.
Comme le parti au pouvoir, l'UDPS.
Voilà. Et de l'autre, son parti, le PPRD, qui conteste la procédure, qui parle d'irrégularité. Difficile de savoir exactement ce qu'il y a derrière. Le timing est, interpellant.
Officiellement, c'est la justice. Mais politiquement, ça arrive à un moment où le pouvoir actuel cherche à consolider son autorité. Ça ouvre une période d'incertitude, c'est sûr.
Restons dans la région. Le voisin, le Congo-Brazzaville. Le président Sassou Nguesso est à Paris, visite officielle pour redynamiser les partenariats. C'est la version officielle.
Oui, mais le contexte est, disons, un peu tendu. Il y a cette fameuse affaire des biens mal acquis qui plane, la justice française enquête sur des patrimoines suspects de dirigeants étrangers, et la famille Sassou Nguesso est concernée.
Ah oui, il y a eu une perquisition récemment, non ?
Tout à fait, dans l'appartement parisien de la première dame. Donc Paris est un peu sur une ligne de crête. D'un côté, les intérêts stratégiques, économiques.
La France reste un partenaire important.
Voilà. Et de l'autre, ces questions de transparence, de justice. Sans oublier que la crise entre la RDC et le Rwanda sera sûrement abordée pendant cette visite. Ça fait beaucoup.
Ces questions de stabilité, ça nous amène naturellement à la sécurité régionale. Au Sahel, la CDAO qui essaie d'accélérer la création d'une force contre les groupes djihadistes, c'est urgent.
C'est plus qu'urgent. Le Sahel, c'est toujours l'épicentre, hein, plus de la moitié des morts liées au terrorisme dans le monde. Et ça ne reste pas confiné au Sahel, ça déborde.
Vers les pays côtiers.
Exactement. Le nord du Bénin, le Nigeria, la menace s'étend. Donc oui, il y a des réunions ministérielles prévues, défense, finances, pour essayer de boucler le financement de cette force.
Mais la CDAO, elle est quand même affaiblie, non ? Avec le Mali, le Burkina, le Niger qui sont partis.
Oui, qui ont créé leur propre alliance, l'AES.
L'alliance des États du Sahel, c'est ça ? Ça complique tout, j'imagine.
Énormément. Comment voulez-vous une coordination régionale efficace quand trois pays clés ne sont plus là ? Le président de la Commission espère encore une forme de collaboration, mais bon. C'est un vrai défi pour une réponse collective.
On voit les tensions militaires, mais il y a aussi d'autres formes de confrontation. J'ai vu cet article sur un échange assez incroyable à Washington entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa, sur fond de désinformation.
Ah oui, c'est un cas d'école de désinformation. Trump qui accuse l'Afrique du Sud de laisser faire un génocide blanc contre les fermiers.
Un génocide blanc ?
Ouais. Et il s'appuie sur des preuves complètement manipulées. Une vidéo d'un mémorial qui devient un cimetière. Un opposant radical, Julius Malema, présenté comme un ministre.
Malema, le leader des EFF, l'opposition.
C'est ça. Et même une photo prise en RDC, utilisée pour illustrer la situation en Afrique du Sud. C'est assez... c'est grossier comme manipulation.
Surtout que les chiffres officiels, ils disent quoi ? 49 meurtres de fermiers en 2023.
Exactement. 49 sur plus de 27 000 homicides dans tout le pays cette année-là. On est très très loin d'un génocide et c'est clairement une récupération politique.
Par qui ?
Mais c'est un récit qui est poussé depuis longtemps par des groupes identitaires locaux, comme AfriForum, et qui trouve un écho aux États-Unis dans certains milieux d'extrême droite. On voit bien la technique. Prendre des faits divers, des images chocs, les sortir de leur contexte.
Pour créer une histoire qui fait peur, qui émeut.
Voilà. Loin des faits réels. Probablement à des fins électorales là-bas. C'est l'instrumentalisation pure et simple.
C'est fou comme ces narratifs peuvent circuler. Bon, changeons de sujet, regardons vers l'avenir. L'intelligence artificielle en Afrique. Un classement vient de sortir sur la préparation des pays.
Oui, l'index AI Talent Readiness 2025. Il regarde les compétences numériques, les infrastructures de données, les politiques publiques. Et le trio de tête, c'est Afrique du Sud, Tunisie, Égypte.
Ah, intéressant. Pourquoi eux, spécifiquement ?
Alors, pour des raisons un peu différentes, l'Afrique du Sud est forte sur les compétences. La Tunisie, apparemment, sur les infrastructures de données, sans doute grâce à des investissements passés, et l'Égypte, sur la densité de talents formés.
Mais j'imagine qu'il y a de grosses différences entre les pays et les régions.
Ah oui, de fortes disparités. L'Afrique du Nord s'en sort plutôt bien globalement. L'Afrique de l'Est suit, l'Afrique australe est tirée vers le haut par l'Afrique du Sud, évidemment.
Et l'Ouest et le Centre ?
Là, c'est plus compliqué. Souvent à cause des infrastructures, de la connectivité qui sont moins développées. C'est un vrai défi parce que ça risque de creuser encore les écarts économiques. Et puis, attention, cet index mesure surtout le potentiel, la préparation. Il ne dit pas encore si les formations sont vraiment de qualité ou si elles correspondent exactement aux besoins du marché africain de l'IA. C'est une première photo, si on veut.
D'accord. Donc, si on résume un peu tout ça, on a une Afrique avec des crises politiques, des défis sécuritaires énormes, la désinformation qui s'en mêle, mais aussi une volonté de se projeter dans l'avenir technologique avec l'IA. C'est très contrasté.
Oui, et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point tout est lié, en fait. La stabilité, la sécurité, c'est la base pour pouvoir développer quoi que ce soit, y compris la technologie. Et inversement, l'instabilité, ou même la désinformation, ça peut tout saper.
C'est vrai. Te plaît interconnecté.
Absolument.
Alors, une dernière pensée pour conclure. On voit bien les défis internes, les influences externes. Comment le continent peut-il renforcer sa résilience collective, aller au-delà des réponses nationales ou régionales, qui semblent parfois un peu fragmentées, un peu limitées?
C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment bâtir une souveraineté plus forte, une capacité à agir ensemble face à ces défis communs et ces pressions extérieures? Vaste sujet.